Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le lundi, c'est politique.
Je vous ai compris.
Au revoir. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Mais je m'en fous du gouvernement.
C'est de la poudre de perlimpin.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Le président de la République, justement, demain soir, dans quasiment à la même heure, on sera dans l'attente des vœux d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État prononcera pour la troisième fois depuis son arrivée à l'Élysée ses vœux aux Français pour la nouvelle année. On annonce des vœux particulièrement importants dans son entourage, sans doute les plus importants depuis qu'il est arrivé à l'Élysée. Peut-il, Emmanuel Macron, apaiser les choses alors que le pays est en train de vivre la grève la plus longue que l'on connaisse depuis 1995 et la réforme des retraites d'Alain Juppé. On en parlait tout à l'heure dans Les Vraies Voix Sud Radio. 26e jour de grève. Que peut dire et peut-il surtout apaiser le pays? 0826 300 300. On en parle ce soir avec nos vraies voix du soir, Philippe Bilger. Rebonsoir, mon cher Philippe.
Rebonjour.
Avec nous toujours en studio, Maxime Thiébaud. Bonsoir à nouveau, Maxime.
Rebonsoir.
Alors, et avec doctorant en droit, je rappelle le livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle aux éditions VA Presse, hein, si on veut se le procurer. Et également, nous a rejoint avec une boîte de chocolat, on va tout vous dire. Bonsoir Sonia Bellocchi.
Bonsoir Sofia Kelocchi.
Sofia Kelocchi, pardon, c'est moi, c'est communicante politique. On va parler de tout ça dans un instant de Emmanuel Macron. Mais pour l'instant, on va faire le tour de table de ce qui vous a marqué dans l'actualité.
À quoi tu penses ?
La politique, c'est du show business !
Je vous ai compris !
Des actes !
Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire !
Au revoir.
Le tour de table.
De l'actualité.
Maxime Thiébaud, alors il est avec un chocolat dans la bouche, donc oui. Je le prends en dépourvu.
Mais c'est un défi.
Voilà, c'est un défi et ça veut dire aussi que, eh ben c'est d'ailleurs comme ça que seront les Français quand ils vont écouter Emmanuel Macron demain. Hein, faut s'imaginer la scène, les Français sont avec un verre de champagne, en train
en
de...
En espérant.
Du foie gras.
Voilà, du foie gras.
Qu'ils ne s'étouffent pas.
Parce que c'est ça aussi, c'est d'intéresser les gens alors qu'on est en train de fêter un événement un peu particulier. Est-ce que les Français sont si attentifs que ça à ses vœux? C'est la question qu'on tout à l'heure. Mais donc, ce soir, quel est le sujet politique, Maxime, qui vous a marqué?
Je voulais parler d'un Romain, d'un beau Romain, à savoir Mélenchon.
Ah.
Alors que l'irrésistible Gaulois, CGT, syndicaliste est en train de se battre, nous avons le Romain Mélenchon qui part en vacances à Rome, alors qu'il faisait la morale à tout le monde de dire « continuez le combat, continuez le combat ». Alors, en dehors de cette petite blague, ce qui est gênant derrière tout cela, c'est d'être un leader de gauche, de vouloir porter une contestation populaire. Et alors que certains se serrent la ceinture, sacrifient leur 13e mois pour pouvoir défendre une cause, lui part en vacances à Rome. Et en fait, ça casse tout le mythe. Et je pense que ça l'a définitivement flingué pour l'élection présidentielle. Déjà qu'il était sacrément impacté pour la prochaine, de par ses positions, notamment vis-à-vis de l'islam politique, et la communicante politique pourra nous en parler. Je trouve que là, il s'est mis la balle dans la tête.
Ouais,
mais littéralement.
Bah, il va expliquer pourquoi il y est allé.
Allé, c'était impossible. Si vous voulez, lorsque vous avez vos frères de combat, vos camarades de gauche, vos camarades en fait politiques qui sont au combat, vous n'allez pas en vacances, c'est-à-dire que c'est une faute grave par rapport à sa position politique. Ça doit être un leader, il devrait être là tous les matins à 6h du matin, à bloquer Rungis, à bloquer un dépôt RATP, il devrait être sur le terrain. Dans sa logique politique, c'est ce qu'il devrait faire. Et d'être en vacances à Rome, mais ça montre finalement tout le personnage, c'est-à-dire que celui qui se dit être l'homme de gauche, en fait, a fait toute sa carrière au PS en étant sénateur PS, celui qui se dit être dans le collectif, crie et scande devant la police de la République c'est moi. Donc là, il montre en fait que la gauche, du moins son combat politique, n'est qu'un alibi pour continuer à avoir un mandat et pouvoir exister, et que tout ce qui l'intéresse, c'est son exposition médiatique. Moi, j'ai jamais cru en Jean-Luc Mélenchon de par son histoire politique, mais ses actes déterminent réellement ce qu'il est au fond de lui-même.
Donc moi, j'ai une question à poser. Est-ce que ça veut dire que quand on est un leader politique, on n'est plus un citoyen lambda qui peut se déplacer pour des raisons privées, parce que on a un week-end de prévu, parce que tout est conditionné et observé
dans le... Quand vous êtes une personnalité politique, vous devez être exemplaire et votre vie privée n'existe pratiquement plus. Moi, j'ai fait de la politique. ma vie privée, elle était conditionnée par mon engagement public. Si je ne croyais plus en mon engagement public, dans ce cas-là, je l'arrêtais. Si j'avais envie de défendre, et j'avais envie de défendre, c'est pour ça aussi notamment que j'ai arrêté la politique, c'est parce que j'avais envie de mettre ma vie privée en avant. Mais je pense que l'un s'efface face à l'autre. Et c'est ainsi le président de la République voit sa vie privée fortement impactée. Il y a certaines choses qu'il ne peut plus faire, logiquement. Un leader politique aussi, mais après, c'est des choix. Mais là, c'est même plus grave, c'est-à-dire qu'au fond, il aime vivre dans cette luxure, il aime ce qui ne représente
pas
ce
que vous
dans ce luxe, en tout
dans
cas.
Dans ce luxe,
mais il aime vivre peut-être.
Dans, il est peut-être allé dans une auberge de jeunesse.
Oui, voilà. Après.
Oui, j'y crois pas, moyennement.
Mais là, Maxime, je comprends. Lui, c'est une personnalité singulière. Et en règle générale, je vous rejoins, Christine, il n'y a aucune raison d'interdire à un homme ou une femme politique de prendre quelques jours de vacances à partir du moment où il ne détruit pas son image. Ou par exemple, Emmanuel Macron partant en pleine crise des Gilets jaunes, 24 heures au sport d'hiver, il est rentré dès le lendemain. Mais je pense que Mélenchon est écartelé entre le reproche qu'il lui a fait souvent de trop en faire, je suis la République, et en même temps, peut-être le désir de montrer qu'il est capable d'une forme de normalité tranquille en partant, alors que le pays est en effervescence. Je ne suis pas persuadé qu'on lui reprocherait comme vous le faites, Maxime, mais je peux me tromper totalement.
Sophia. Je te rejoins très clairement, parce que c'est vrai que de part, effectivement, ce que vous venez de
il y a un téléphone qui sonne.
Je vais juste l'éteindre.
Voilà.
Comme ça.
C'est en direct, hein, messieurs,
dames. Excusez-nous.
Hein. Voilà.
C'est une preuve du direct.
c'est ce qu'on dit dans ces cas-là.
Justement, concernant sa démarche. Le cas Mélenchon, moi, très clairement, il savait très bien qu'il allait se prendre en photo. Et que ça allait être forcément
fuité. Mais il a été pris en photo, il me semble.
Oui, il a été pris en photo. Moi, en tant que communicante, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? J'aurais effectivement moi-même publié, via des réseaux sociaux, qu'il était à Rome pour 2-3 jours, et dire, voilà, il n'est pas aux manettes de... C'est pas comme le président de la République où l'année dernière il était effectivement en vacances au ski en train de skier où effectivement il y avait des gilets jaunes qui étaient au plein cœur de la.
Il est resté 6 heures.
Mais Mélenchon manette une contestation sociale cependant. Il invite les gens à sacrifier leur salaire et leurs vacances pour un combat et lui part en vacances à côté. Ça me semble quand même être une faute politique.
C'est le côté paradoxal et ce qui peut pas attendre. Que ça soit terminé pour aller à Rome.
Je veux bien reconnaître, j'ai peut-être un peu abusé avec le terme luxure notamment, mais je trouve que c'est quand même paradoxal. Vous dites pas à vos hommes, allez au combat, moi je vais au sauna.
En même temps, Maxime, on lui a reproché de substituer au combat syndical à une certaine époque. Et les syndicats l'ont rembarré en disant... Attention, c'est notre domaine.
Oui. Ils sont pas trop sur la même longueur d'onde. Allez, on va continuer ce tour de table de l'actu politique de cette fin d'année 2019 et on va regarder un peu ce qui se passe en 2020 et notre débat ce soir qui démarrera avec vous 0826 300 300 également. Emmanuel Macron qui va prononcer ses vœux pour la troisième fois demain soir à la télévision à l'occasion du nouvel an. Est-ce que le chef de l'État va réussir à apaiser les choses alors que le pays connaît l'une des plus grandes grèves que l'on connaît depuis 1995. On vous attend. Allez, les vraies voix, c'est jusqu'à 20h. Les vraies voix politiques. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le lundi, c'est politique.
C'est politique même avec même du chocolat. Vraiment, on se régale avec Sophia Kelloki qui nous a apporté donc des chocolats pour.
C'est gentil. Pour
continuer d'arrondir.
Ils sont très bons. Hein.
Ouais, c'est trop bon. C'est un peu de vitamine pour la soirée. Tiens, Sophia, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre actualité politique? Alors, soit de ces derniers jours, soit de l'année.
On restera à gauche. Moi, ça serait pour la démission de François de Rugy via les révélations de Mediapart.
Ça paraît bien loin maintenant. Il s'est passé tellement de trucs depuis.
C'est ça. Donc voilà où là il a fameux avec son fameux dîner de homard et ses vins prestigieux. Donc c'est vrai qu'effectivement, au bout de dès lors où il y a effectivement eu la révélation, il a démissionné en quelques heures, même pratiquement quelques jours. Donc ça a été un temps fort. Et puis la mort de l'ancien président Jacques Chirac aussi, où là on se dit il y a une page de l'histoire qui se tourne. Voilà.
Carrément.
Ouais.
Mais je reviens à l'affaire de Rugy.
Oui.
Avec le recul, ça paraît, vu tout ce qui s'est passé depuis, notamment avec Delevoye, ouais, avec la réforme des retraites, avec toutes les révélations qu'on a connues, est-ce que finalement c'était presque pas disproportionné ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah mais clairement.
Ouais, est-ce que c'est pas étonnant après
il y avait d'autant des... plus, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le homard n'était pas pour lui. Il avait respecté à peu près la réglementation somptuaire et au fond, la France, par un désir d'intégrité morale, tombe, semble-t-il, dans un prurite qui lui interdit d'hiérarchiser. C'est-à-dire, à force de mettre tout sur le même plan, je suis persuadé que, paradoxalement, des choses gravissimes, parfois, lui échapperont. On ne met pas sur le même plan une affaire de Rugy, si elle existe, et des choses de Levoye qui me paraît le comble, là, de la transgression.
Je trouve que les mensonges de Castaner sur certaines bavures policières ou même sur la date de la salpêtrière sont plus graves que le homard de Rugy.
Mon cher Maxime, mais nous n'allons pas être d'accord.
Vous ne passerez pas le réveillon ensemble. Hein, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là.
Si, parce qu'on allait
être un bonheur d'être en désaccord avec lui.
C'est comme ça qu'on fait des bonnes soirées, d'ailleurs.
De Rugy, il y a une réalité, c'était un homme seul. De Rugy, avant toute chose, c'est l'homme qui a pas su empêcher l'affaire Benalla à l'Assemblée nationale. Et ça a fortement marqué la majorité. Et beaucoup de députés de la majorité disaient « Bon, il est chiant de sa commission d'enquête, il est en train de lancer l'affaire Benalla, il ne sait pas la stopper. » Et il l'a payé cher, parce qu'en fait, il a quand même quitté le perchoir, plus ou moins pour cette raison. Hein. Et après coup, bien sûr, il a perdu tout soutien politique. Et cette affaire des homards, à mon avis, n'a pas plus dérangé que ça l'Élysée qui avait besoin de faire un exemple de probité politique.
Maxime, j'avais envie de vous poser cette question. Ce que vient de dire Sophia concernant les deux faits marquants, hein, c'est-à-dire l'affaire de Rugy et la mort de Jacques Chirac, l'émotion que ça a engendré. Qu'est-ce que ça dit de notre époque? Cette émotion sur la mort d'un ancien président de la République que peu ont forcément connu hein, dans les jeunes générations, et cet émoi autour d'un homard.
Ça dit, le homard, on a dit, enfin j'ai dit ce que j'en pensais, sur Jacques Chirac, je suis frappé de voir l'immensité de l'hommage, et à côté, tout de même, objectivement, de la médiocrité du bilan politique. Si on enlève les deux choses qu'on est toujours obligé de ressortir, l'Irak et puis le monde, et je sais plus...
Parce qu'on parle de la réforme des retraites, là, aujourd'hui, où ça bute, c'était 95, c'était lui.
Il suffit de relire les premières lignes des Misérables de Victor Hugo. On se souvient davantage de ce qu'on dit des gens, de ce qu'ils ont fait. Et Jacques Chirac, c'est exactement cela. Une politique publique qui était très moyenne, sauf sur la politique internationale, mais sur la politique nationale, il a
donc
rien
ça,
fait.
Ça et veut moi, dire quoi, qu'il faut être sympathique.
Et puis même, et même Christine, d'aucuns lui ont justifié l'hommage, il était tout à fait normal, parce qu'il aurait été un homme chaleureux et sympathique, et tous ceux qui l'ont bien commis ont dit que sur le plan politique, c'était un tueur. Oui. Et notamment, il a fracturé complètement la droite. Hein.
Il avait une stature encore gaulienne aussi, ce qui manque beaucoup aux Français, qui voient un président jeune et amateur, qui ont vu un François Hollande qui a un peu déshonoré la fonction, et un Nicolas Sarkozy un peu excité.
Et il avait de l'allure.
Il avait une allure, il avait une gueule au sens premier
esthétique,
du terme.
Une esthétique de la politique.
Oui. Parce que des histoires de homard sous Jacques Chirac, il y en avait quelques-unes de cachées aussi qui auraient pu sortir. Mais on n'est plus sur la même époque en termes de formation.
Mais les Français, Christine, sont complètement indifférents, je pense, à la morale publique. Moi, c'est ce qui me scandalise, non seulement dans le...
C'est-à-dire
je veux dire, ils s'en fichent. Il n'exige pas des hommes.
Que ça.
On en parle, mais il n'exige pas des hommes, des personnalités politiques, une vertu.
Et des fois, ça les fait même jubiler. C'est-à-dire que vous avez des grands hommes politiques. Vous prenez Pasqua est adoré des Français, globalement, et il a quand même quelques casseroles. Mais en fait, les Français, je pense, sont attachés à l'image que dégagent les hommes politiques dans leur grandeur, dans leur manière d'incarner la fonction. Et parfois, bon, leur excuse, ou même ça rajoute à leur charme.
Bah, Chirac, je pense que Chirac, c'est très clair,
ça fait son charme.
C'est le Henri IV d'aujourd'hui.
C'est ça.
Exactement, ouais.
Mon cher Philippe, qu'est-ce que vous avez noté dans la politique
vous
d'aujourd'hui?
Vous trouviez, ma chère Christine, que mon adorable voisine a choisi un événement un peu lointain. Moi, je voudrais... Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est quelque chose de profond dans le mandat d'Emmanuel Macron. On peut être en désaccord les uns et les autres sur sa politique, sur le projet de loi des retraites, sur ses comportements, ses attitudes, mais je pense qu'il n'y a plus un citoyen aujourd'hui en France, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, qui considère que Emmanuel Macron a été vecteur du nouveau monde. Je veux dire, il est clair que avec lui, nous sommes dans l'ancien monde, et je dirais même parfois en pire. Ouais. Parce que sur le plan de la morale, alors on a eu Nicolas Sarkozy, on a eu... Mais tout de même, voilà un homme qui nous a...
On a eu quand même quelques belles affaires aussi
dans
les mandats précédents.
On nous avait promis le nouveau monde.
Ouais, c'est vrai.
Nouveau monde.
À chaque fois, on promet quelque chose de nouveau, de différent, de radicalement opposé.
Oui, mais sur tous les plans. Et notamment sur le plan moral. Et on a vu très vite à quel point on était dans l'ancien, avec ses vieilles ficelles et ses réactions scandaleuses aussi bien pour Benalla et d'autres. Quoi. Moi, c'est ce que j'en tirerais.
C'est difficile, je dirais, parce que ce que vous dites les uns et les autres, c'est que les gens, le citoyen a besoin qu'on leur dise les choses telles qu'elles sont. C'est ce que vous dites. Et en même temps, quand on leur dit pas « on va changer les choses », ça revient comme un boomerang. Donc le discours politique, il est vraiment sur une ligne de crête qui est compliquée.
Oui, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il est plus que l'ancien monde, il est sorti du monde, Emmanuel Macron. Et on voit les témoignages même de ses alliés qui disent « mais il n'écoute plus personne, il est déconnecté ». Mais en fait, il a une ligne de conduite. C'est un homme qui a été créé pour mettre en place des politiques avant tout bancaire, mais aujourd'hui à la tête de l'État, de libéralisation. Il a commencé l'arrivée secrétaire général adjoint de l'Élysée, me semble-t-il, en charge de l'économie. Il a été chargé de vendre Aéroports de Toulouse. Il est arrivé au gouvernement, il a fait passer les premières grandes lois, notamment la loi Pacte, privatisation d'Aéroports de Paris, privatisation française des Jeux. Il a consolidé les privatisations d'autoroutes et il a même créé la privatisation des retraites. Il est là pour confier, après qu'on soit d'accord ou pas, il est là pour confier la politique publique, du moins l'argent qui aujourd'hui est encore dans le secteur public, en le transférant dans le secteur privé. Après, qu'on soit d'accord ou pas, c'est sa réalité. Et cette situation-là, elle ne se situe pas dans le jeu politique. Pourquoi ? Parce que la politique, vous prenez en compte la pensée des Français, leurs attentes, l'intérêt général. Il n'est pas là dans une logique d'intérêt général, il est là dans une logique de libéralisation. Et je pense qu'il est sorti du monde politique.
Et je rajouterais même par rapport à ce que, par rapport à son discours de l'année dernière, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que, très clairement, je n'arrêterai pas d'agir. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'effectivement, il a été formaté pour porter ces projets qui sont... ces réformes, tout simplement.
Je vais m'opposer à vous deux.
Il a été élu. Il n'a pas avancé masqué. Parce que le projet était avancé, proposé.
Quand je vous écoute, on a l'impression d'un dessein, d'une politique qui est mise en œuvre de manière systématique et qui n'est inspirée que par des desseins égoïstes, on peut le dire, partisans. Moi, je crois, on peut accepter l'idée que ce qui domine, c'est une personnalité impérieuse. Et il n'est pas nécessaire, et le fait qu'il n'écoute plus personne, et que d'une certaine manière, il soit responsable de la manière catastrophique dont ses actes soient perçus, peut venir d'une personnalité discutable, mais je ne lui prêterai pas une malfaisance de principe.
Je ne pense pas qu'il soit malfaisant.
Je ne lui prêterai même pas un dessein préétabli qui consisterait à privilégier des intérêts délétères.
Pour le coup, je ne suis pas d'accord sur son idée politique. Il la défendait avant même d'être président de la République. La différence, c'est de son programme politique. Moi, je l'avais lu dans tous les sens. Je n'ai jamais compris quels étaient ses axes. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans l'idée du nouveau monde. Il a repris la logique anti-système de Marine Le Pen en lui mettant une couleur moderne. Et il a gagné la présidentielle. Après, il a fait ce pour quoi il s'est toujours battu. C'est tout. Et moi, je lui en veux pas, si vous voulez. Moi, je pense que dans cette logique-là, il fait son job. Tant mieux pour lui. Je le combattrai, en tout cas, personnellement, je suis en désaccord. Mais je trouve, par contre, que beaucoup d'hommes politiques qui se sont battus pendant des années pour certaines idées, notamment de gauche, qui aujourd'hui se couchent derrière lui en sachant très bien ce qui se passe, parce qu'ils veulent sauver leur mandat, eux devraient se regarder dans la glace et se dire « Est-ce que je ne suis pas en train de louper le virage ?»
Mais parce qu'il a théorisé brillamment le dépassement de la droite et de la gauche, qui avait commencé avant lui, d'ailleurs, qu'il a très bien exploité.
Nicolas
et
Sarkozy
puis, une fois
bien
qu'il
commencé.
Lui a été utile, il est devenu de droite et de droite.
Je pense que Nicolas Sarkozy,
il fait une politique qui,
comme François Hollande, je pense que Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, était obligé de donner des gages libéraux aux grandes sociétés parce qu'ils étaient obligés de répondre à leurs attentes. Mais que pour autant, ils n'y pensaient pas. Alors que lui est totalement convaincu par cette logique.
Alors moi, je voulais revenir sur quelque chose qui m'a interpellé ce matin aussi, et on va en parler. L'ancien haut fonctionnaire et homme d'affaires, Bernard Attali, frère jumeau de Jacques, signe une tribune dans les Échos ce matin où il dénonce la fausse bonne idée de la suppression de l'ENA, puisque même le rapport de Frédéric Thiriez montre à quel point, dit-il, c'est un contresens qui peut effectivement... être critique de la méritocratie. Il ne s'agit pas ici de la réforme des grands corps, encore que la direction proposée soit pour le moment très floue. Je parle de la disparition de l'école avec son concours et son classement à l'entrée comme à la sortie. Il dit le classement, en tous les cas, cette méritocratie devrait commencer non pas à la fin du cursus, mais au tout début du cursus. Et surtout, il s'inquiète de ce qu'il appelle le niveau du téléphone où l'opinion de Madame Michu vaut celle d'un expert. C'est ça qu'on va perdre, et on va perdre surtout des valeurs ou des jeunes gens de valeur qui n'auront plus envie de rejoindre cette haute administration qui, somme toute, a permis quand même au pays d'avancer. Bonne ou mauvaise analyse ?
Je trouve, puisque grâce à vous, j'ai lu le texte, Christine, que
je vous remercie.
Il est absurde de vouloir supprimer l'ENA. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était aberrant parce que...
C'est ce que demandait une majorité de gens à l'issue de...
On impose depuis longtemps une sorte de procès de principe contre l'ENA, comme si l'ENA n'avait fabriqué que des incapables ou des irresponsables. Il faudrait l'aménager, la réformer. Ce que je n'aime pas dans le texte de Bernard Attali, qui n'est pas loin de cette première idée, c'est le léger mépris, voire la condescendance à l'égard de Madame Michu. Je suis peut-être immature, sûrement en politique, mais je n'irai pas dire que Madame Michu vaut nécessairement un expert. Mais en tout cas, j'attacherai plus de prix à son opinion qu'il ne le fait. On a vu tout de même une politique menée depuis des années par des experts autoproclamés ou compétents. Les résultats ne sont pas à ce point éclatants qu'on puisse se dispenser d'écouter le peuple. Moi, c'est comme ça que je vois ce que j'ai.
La suppression de l'ENA, bonne ou mauvaise idée ?
Mauvaise idée, parce qu'il faut une élite. Par contre, réformer l'ENA, oui, une nécessité. Déjà, supprimer le concours de culture générale, parce que c'est aussi ce qui est annoncé, c'est une erreur, comme à Sciences Po, c'est une erreur, c'est une aberration totale. On est en train de faire des gens compétents, mais sans culture générale. C'est quand même tragique. Moi, ce qui me choque à l'ENA, et il faut être franc, j'ai plein d'amis qui ont été soit examinateurs, soit énarques, qui me disent, tu sais, si t'es pas dans la logique idéologique de l'ENA, c'est-à-dire si t'es souverainiste, si tu remets en cause l'Union européenne, etc., t'as quand même peu de chances de passer le grand oral. Il faut le dire, c'est une réalité. Il n'y a pas énormément de jeunes énarques qui viennent du souverainisme. Même Florian Philippot, qui est énarque, ne cache pas, dans plusieurs interviews, qu'il dissimulait ses idées politiques lors du grand oral. Et ça, c'est problématique.
Et puis, il n'est pas sorti dans la botte.
Et il n'est pas sorti dans la botte non plus. Donc, je pense qu'il faut réformer cette école, mais elle est belle et elle est nécessaire au pays.
Je suis d'accord avec, effectivement, avec mes deux camarades, qu'effectivement, il ne faut pas la supprimer, mais il faut effectivement la réformer.
Donc on a besoin de hauts fonctionnaires compétents et formés.
Et patriotes.
Mais plus, peut-être, qui représentent aussi plus
la population française. Oui, et puis peut-être, Christine, une formation davantage pluraliste, quoi. C'est-à-dire
au contact du réel.
Oui, on dit très souvent que les énarques qui, tout à coup, sont bombardés à la tête de grosses entreprises ne réussissent pas forcément. c'est peut-être pas le même terreau. Peut-être pourrait-on les persuader que d'avoir les qualités qui conviendraient.
Les pieds sur terre, comme on dit. Bon, on va marquer une courte pause dans ces vraies voix politiques ce soir et on va parler d'Emmanuel Macron. Peut-il apaiser les choses demain soir, 20h, lors de ses vœux aux Français, à la télévision, à l'occasion du Nouvel An? Si vous voulez nous donner votre avis, 0826 300 300. À tout de suite. Sweet dreams are made of these.
Who am I to disagree? Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le lundi, c'est politique.
Comme je...
Parce qu'ils sont souverainistes.
Voilà, les vraies voix politiques continuent hors antenne avec des échanges. ce soir, on intervient et on est avec Maxime Thiébaud, qui est docteur en droit, auteur des Gilets jaunes vers une démocratie réelle aux éditions VA Press, avec Sophia Kelocki, qui est communicante politique, et bien sûr Philippe Bilger, qui est président de l'Institut de la Parole et auteur depuis le mois d'octobre du livre Le mur des cons.
Albin Michel.
Chez Albin Michel. Mais j'attends toujours la dédicace hein, sur mon livre mais perso, à moi toute seule. Hein.
Mais
de même. Mais...
Un peu de patience.
Un peu de patience. Allez, on s'intéresse à ce qui va nous occuper, bien sûr, tous les journalistes et analystes politiques, à ces vœux présidentiels. C'est une tradition très républicaine. Il y a peu de pays hein, où ça se fait comme ça, où le chef de l'État vient à 20h à la télévision célébrer la nouvelle année, donner ses vœux de réussite et de santé à nos proches, à nos familles, dans nos vies, etc.
Moi, le
et
rituel, délivrer
un message politique.
Le rituel me plaît bien, Christine, même si on ne peut pas dire que Emmanuel Macron, qui avait parlé de parole rare à l'origine, depuis n'a pas abusé de la parole.
Hein, il a donc, fait des débats de 7-8 heures.
Ses vœux du 31, moi je les attends avec une certaine impatience, mais ils ne vont pas être bouleversants de nouveautés dans notre paysage. Et à ma connaissance, mais là j'ai besoin de votre savoir, c'est la première fois que des vœux vont être formulés par un président en pleine crise sociale, tout de même. À ma connaissance, il n'y a pas, n'est-ce pas, Christine? Et donc, là, ça rajoute quelque chose, tout de même, d'extrêmement difficile.
L'an dernier, on était sur la bascule des Gilets jaunes. Ouais, donc,
j'attendais qu'ils...
Mais les Gilets jaunes, je dirais que c'est presque davantage. Enfin, on attendait... Là, c'est quelque chose qui enjambe radicalement et dont on ne voit pas la fin, en tout cas pour l'instant.
Maxime.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'attends strictement rien de ses vœux. Et pour être honnête, avant de savoir le thème de ce soir, je ne pensais même pas aux vœux d'Emmanuel Macron. Parce qu'on est habitué à la belle parole, à la logorée et finalement assez peu d'idées. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il tiendrait le cap sur la réforme des retraites. Il a toujours sa même logique politique, point. Alors il va essayer de faire un peu de pédagogie, peut-être de calmer les gens et d'avoir un petit message d'espoir pour 2020. Mais j'en attends pas davantage.
Sophia. Est-ce qu'il peut apaiser les choses, au moins?
Alors,
je sais pas dire halte au feu.
Apaiser des
choses. Ma porte est ouverte. Venez discuter avec moi.
Ce qui va se passer, c'est qu'il va apaiser des choses en rétablissant une feuille de route. Parce que l'année dernière, ça a été le cas pour les fameux gilets jaunes. Rappelez-vous le fameux grand débat. Mm-hmm. Il a lancé ça lors de son discours du 31. Qu'est-ce que c'était le grand débat? Donc, il faudra qu'il rassure les Français à travers une feuille de route et de pouvoir ensuite, il fera pas d'annonce. Il va faire un discours. Alors, l'année dernière, c'est 18 minutes. Est-ce qu'il va faire 20 cette fois-ci ou moins?
Il est long en général.
Voilà. Mais après, il faut pas oublier que c'est un très, très bon communicant. Il s'est isolé cette fois-ci. Seul avec sa femme.
Il rentre de Brégançon aujourd'hui.
C'est ça, ce soir. Mais en laissant ses conseillers et son équipe ici à l'Élysée. Mais très clairement, c'est vrai que l'année dernière, le cas des Gilets jaunes, il a passé cette étape, ce cap-là de discours et en même temps même d'action, parce qu'il a quand même rencontré, il a fait 14 rencontres l'année dernière. Il a fait le tour de la France.
Oui, on était. On a bien suivi. Voilà.
Donc du coup, là, cette réforme, il a donné la main. En tout cas, il a donné ce dossier-là à son ministre l'année dernière. C'était lui qui avait pris, rappelez-vous, la parole le 5 décembre en disant qu'il faisait des annonces à coups de milliards d'argent, en tout cas de budget, donc, et en baissant des impôts. Là, cette fois-ci, il a donné des locutions à son Premier ministre, et c'est son Premier ministre qui négocie avec des syndicats. Mmh. Donc, du coup, il a complètement changé sa stratégie. Donc là, effectivement, on va attendre demain ce qu'il va dire. Mais en tout cas, ça sera plus une feuille de route. Il va rassurer les Français. Il va redonner un sens à cette réforme. Parce qu'on part de 42 régimes pour en mettre des spéciaux. Mais c'est 42 régimes. En sachant qu'il en a négocié quelques-uns, en tout cas pas lui, mais bon, il est au cœur de tout ça, il est au cœur de cette négociation. Maintenant, il fait effectivement attendre ce qui va.
La grande difficulté, je trouve, par rapport à l'an dernier, d'une certaine manière, je l'ai trouvé en défense, c'est-à-dire que le grand débat lui a été imposé, en réalité, par les Gilets jaunes.
Oui, mais c'était surtout que l'année dernière, c'était un mouvement inédit, où personne n'avait la solution et la clé du problème.
Mais précisément, Christine, il a trouvé le grand débat. Tandis que là, c'est le pouvoir qui a la main et qui doit trouver la solution. Et pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Mmh. Et donc, ça va être très dur. Et la petite voix que vous évoquez, peut-être, jusqu'à maintenant, il a laissé le Premier ministre prendre un peu la main. Mais peut-être va-t-il nous sortir quelque chose qui représentera une recette magique, je n'en sais rien.
Est-ce que ce ne sont pas des vœux plus périlleux que ceux de l'an dernier encore?
Ah, je pense que oui. Mmh.
Si, c'est plus périlleux parce qu'il a la main, réellement, et que s'il utilise une nouvelle fois Édouard Philippe comme fusible et qui ne répond pas aux attentes sur les retraites, il peut relancer les grèves du 6 janvier. Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr qu'il ait rassuré les Français l'année dernière lors de ses vœux, pour la simple bonne raison que beaucoup ont quitté les ronds-points, beaucoup de gilets jaunes ont quitté les ronds-points parce qu'ils n'avaient plus les moyens d'y aller aussi. Beaucoup de Français ont eu peur aussi parce que il y a eu quand même beaucoup de blessés dans ces manifestations. Mais les Français sont toujours dans l'attente et la crise sociale existe encore, les inquiétudes sont là.
Ah mais ça, je ne dis pas le contraire.
Alors, le grand débat a permis de noyer le poisson, pour autant, et surtout il lui a permis aussi de tuer toute opposition politique autre que Marine Le Pen, ce qui lui a permis de sauver les élections européennes. Et je suis convaincu que le grand vainqueur des élections européennes, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il a su créer la bipolarisation qu'il attend pour la prochaine présidentielle. Pour autant, cette année, la différence, c'est qu'il ne peut plus se défendre. Il est dans l'obligation de répondre à des attentes que lui-même a causées. Donc, le jeu est totalement différent.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque pour lui, parce que depuis le démarrage de la grève au sujet de la réforme des retraites, il a très peu pris la parole, sauf depuis l'étranger, et qu'en plus de ça, les syndicats, où c'est un front, on va dire, plus classique en termes d'opposition, sont eux-mêmes en danger de débordement par leur propre base. Donc, comment arriver à trouver les mots justes, et que peut-il dire pour éventuellement trouver une issue ou reprendre véritablement la main ou le discours d'apaisement pour aller vers une sortie du conflit.
À partir du moment où le principe, c'est-à-dire de casser le système par répartition des retraites, ne sera pas changé, c'est-à-dire tant qu'il ne reviendra pas sur le fait qu'il veut casser le système par répartition des retraites, eh bien, la contestation continuera. Donc, je ne vois pas d'autres annonces qui pourraient atténuer. Et j'ai peur qu'un agglomérat de petites annonces, pendant 20 minutes, en nous faisant des petites réformettes, ne soit pas, finalement, avec un effet contraire et n'encourage pas, finalement, la contestation sociale à continuer avec des Français qui diraient « il veut nous noyer » alors qu'on a tous compris que, finalement, ça ne changera rien.
Je ne crois pas, Maxime, mais je ne suis pas un spécialiste de tout cela, qu'il ait la volonté de casser le système pour aller vers la capitalisation. Mais
sur l'âge pivot, est-ce qu'il peut, par exemple, faire basculer, on pense à la CFDT...
Il avait laissé entendre, en tout cas, puisqu'il avait légèrement ouvert la porte en disant...
Qui a été refermé par Édouard Philippe.
Absolument. Mais il ne faut pas oublier un élément, peut-être que j'abuse des explications psychologiques, dans la mesure où elles me passionnent davantage que les questions idéologiques, c'est qu'il a une obsession, Emmanuel Macron, c'est de montrer que lui ne reculera pas comme ses prédécesseurs. Et je pense notamment à François Hollande.
Est-ce qu'il n'a pas déjà reculé sur plein de corporations ?
Pas vraiment. Jusqu'à maintenant, il sauve l'essentiel, tout de même.
Il faut qu'il sauve son électorat pour 2022.
Voilà. Et puis,
il n'a pas le choix.
Le système par points, c'est le cœur de son système. Et il s'est permis de violer la parole qu'il avait donnée à la CFDT parce qu'il craignait que la CFDT prenne un rôle politique considérable et puisse apparaître presque comme un adversaire.
Est-ce que le risque pour lui, autre question, au lieu d'apaiser, c'est de à réanimer la flamme de la contestation à partir du 6 janvier.
S'il ne touche pas à l'âge pivot, oui. Surtout qu'il se contredit, parce qu'il y a quelques années, je crois en 2017, pendant la présidentielle, il avait dit que toucher à l'âge pivot, c'était une vraie bêtise, parce que les seniors étaient majoritairement au chômage. En plus, c'était vraiment symbolique, c'est de 64 ans, c'est l'âge moyen de vie en bonne santé en France. C'est-à-dire que l'âge pivot, c'est vraiment l'âge moyen de vie en bonne santé. Et que vous avez énormément de gens qui sont en souffrance entre 50 et 65 ans. Moi, j'ai des oncles et tantes qui ont, dans ces âges-là, ils ont hâte d'avoir 60, 62 ans et de pouvoir partir en retraite, parce qu'ils font des métiers compliqué. Voilà.
Ah oui.
Si on leur dit qu'il faut faire 2 ans de plus, ils seraient traumatisés. Et
2 ans de plus avec une décote à vie. Hein,
mais en plus, avec une décote à vie, c'est ça qui est assez terrible. Moi, je pense qu'il ne touchera pas à l'âge pivot parce qu'il y a des symboles aussi électoraux. Et
donc en fait, il ne bougera rien.
Il ne bougera rien. Ouais. Et puis, il faut qu'il pense au régional. Vous savez, les régionales, pour lui, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il gagne l'Île-de-France. Faut qu'il gagne
quelques
régions.
Avant, il y avait les municipales quand même.
Oui, mais municipales, ouais. Il a compris qu'elles sont mortes. C'est pour ça qu'il dilue ses listes, qu'il leur demande de ne pas mettre de cartes. Ouais. Il sait que la droite va gagner les municipales globalement. En fait, les candidats divers droites vont plus ou moins gagner. Mais dans les divers droites, vous avez énormément de candidats qui sont déjà Macron compatibles. Donc bon, c'est un peu un gros marasme. Par contre, les régionales, ça va être très important parce que vous allez avoir une identification politique. Et il peut gagner certaines régions et il doit gagner l'Île-de-France. C'est un symbole. Le reste, il peut même laisser le Front National en gagner. Et il n'aura, je pense, aucun scrupule à laisser le Rassemblement National en gagner. Pourquoi ? Parce que ça lui permet d'avoir des outils politiques pour la suite, pour pouvoir, pourquoi pas, condamner le Front National dans une gestion qui serait catastrophique.
Donc ce soir, ce que vous dites, Maxime, c'est qu'il va faire des vœux en perspective de 2022.
De toute façon, c'est un homme politique de 40 ans, il ne pense qu'à ça.
Bien sûr.
J'ai toujours dit, il fera 3 mandats.
On est à 2 ans.
Il veut faire 3 mandats. Le premier, il est national. Le deuxième, il est encore une nouvelle fois national. Et le troisième sera européen. Et qui nous vendra une réforme constitutionnelle à dimension européenne dans la deuxième partie de son deuxième mandat. Et qu'après, il se fera. C'est un homme politique, il aime le pouvoir. Et il a raison, sinon on ne serait pas président de la République. Et il ne s'arrêtera pas à 48 ans, une carrière politique en allant faire le lobbyiste comme Sarkozy.
Et puis il a une capacité incroyable. Contrairement au prédécesseur qui, à un moment donné, déclinait de manière presque irréversible, lui, c'est fluctuant en permanence, quoi. En ce moment, il est en train de monter un petit peu, mais... C'est justement instable, c'est étonnamment instable, mais j'ai l'impression, et ça, c'est une vision pessimiste, que derrière la France officielle et le pouvoir dans son registre qui nous intéresse, il y a une France derrière qui n'est pas heureuse.
Allez, on continue d'en débattre. Les vœux du président de la République, est-ce qu'il peut annoncer des choses qui changent la phase d'un conflit qui dure depuis maintenant 26, voire demain 27 jours, et plus encore, puisque les négociations, je vous le rappelle, ne réouvriront officiellement que le 7 janvier prochain. Donc ce soir, si vous êtes en train d'attendre votre bus sur un quai parisien, et ben vous souhaite beaucoup de courage, et pour les autres aussi. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec les vraies voix politiques.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le lundi, c'est politique.
C'est politique, hein, puisqu'il n'y a pas de trêve des confiseurs et encore moins de la Saint-Sylvestre dans la politique, avec demain soir ce rendez-vous, hein, un peu institutionnalisé avec les vœux du président de la République. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, on regardait religieusement François Mitterrand qui était assis derrière un bureau, etc. Et en même temps, il y avait un côté très décalé, c'est que tout autour, les gens font la fête. Voilà, il y a ce côté.
J'ai dû faire taire parfois mes gens. Enfants et mes petits-enfants.
C'est assez solennel.
Est-ce qu'il se rend compte qu'à ce moment-là, les gens ont une oreille un peu distraite sur ce rendez-vous, finalement ?
Mais moi, je me souviens d'une petite anecdote assez perso. C'est vrai qu'à ce moment-là...
Tout le monde s'arrête.
Oui. J'avais mon père, mais c'était avant... on faisait la fête, on accueillait nos invités.
En fait, c'est le rendez-vous du président de la République chez les Français.
Il fallait que chez mon père, tout le monde se... on écoute le président. Donc à l'époque, c'était François Mitterrand, Jacques Chirac, Méduit en arrivant bien avant, c'était De Gaulle. Donc pour lui, voilà, hein. De Gaulle. Mais du coup, c'est resté... pas en nous, mais en tout cas, on essaie.
Chez vous, ça d'écouter. A beaucoup changé. Par ailleurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Maxime. Les gens n'écoutent plus beaucoup.
Oui.
Alors qu'ils sont très peu les citoyens. Moi, je pour rien au monde, je manquerais. C'est-à-dire que j'étais un jour, on avait fixé une date qui m'interdisait. Ça m'avait perturbé de pas pouvoir les entendre.
Mais c'est vrai que c'est un moment, finalement, quand on vous entend, où vraiment le président de la République s'invite dans le cœur des foyers des Français. Donc c'est, j'imagine qu'en termes d'écriture, il doit y avoir quelque chose d'assez particulier, d'assez pesé, chaque mot, chaque virgule, dans ce texte qui est avancé.
Et où, pour être méchant, la démagogie doit couler à flot.
Ben oui, mais bon... Mon cher
oui,
Philippe,
bien sûr, c'est inévitable. Mais moi, je continue à penser qu'un homme ou une femme politique qui serait sincère gagnerait en France.
Bien sûr. Mais vous savez...
Il n'y en a pas, hein, Maxime.
Pas encore.
Il viendra peut-être. Mais il y a une réalité aussi, c'est peut-être que les Français se désintéressent de ces annonces de vœux parce que la parole présidentielle est beaucoup moins sacrée qu'avant et elle est beaucoup moins rare. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'exprime en permanence et on se dit, bon, Jacques Chirac ou le général de Gaulle, quand il prenait la parole, c'était rare. Et même...
Alors qu'il nous l'avait promis, rare, Emmanuel Macron, et que c'était une très bonne idée.
Parce que Jacques Chirac prenait la parole 14 juillet.
Alors,
et
on est un peu schizophrène, parce que quand il a dit qu'elle était rare, tout le monde lui a reproché qu'il parlait pas assez, qu'on savait pas ce qu'il pensait et qu'il parlait pas assez aux Français. Après, il a multiplié les débats et aujourd'hui, on trouve qu'il parle trop. Donc,
c'est intéressant de voir que Maxime a raison, il prépare 2022 et le grand débat au fond qui lui a été imposé par les Gilets jaunes a été aussi pour lui un moment de grâce où il a retrouvé les élans de sa campagne d'avant.
C'est
et là,
quand il a fait
on
ses 14,
peut ne pas l'aimer, mais il est très doué dans ses empathies qui sont des faux dialogues et de vrais monologues.
Oui, mais des faux dialogues, et pour avoir assisté au débat sur le premier débat sur les retraite à Rodez, qui a été instaurée, enfin, il y a eu un faux départ avec le décès de Jacques Chirac, mais ils ont remis ça. J'ai pu rencontrer, moi, des gens qui ont fait 200 à 300 kilomètres pour venir discuter avec le chef de l'État. Des non-macronistes, des gens qui sont pas forcément, mais qui ont un besoin viscéral d'avoir ce contact direct dans leurs questions.
Je peux comprendre.
Et de voir le chef de l'État. Donc, il y a un vrai besoin, on va dire, d'échange, non pas d'idées, même si des fois c'est un peu biaisé, mais en tous les cas, de pouvoir se confronter.
Et surtout dans les territoires dont vous parliez tout à l'heure, Christine. Je pense qu'il y a une France sans aucun mépris, au contraire, provinciale, qui plus attirée par lui, par sa représentation.
Mais le jour où, je pense, un homme ou une femme politique va vraiment incarner, on parlait de Jacques Chirac tout à l'heure, cette France des territoires, je pense que c'est la personne qui peut rafler la mise.
Vous pensez alors à quelqu'un, Gérard Larcher, sérieusement?
Je pense que la personne qui montrera qu'elle a un vrai, véritable attachement au territoire sera capable d'aller loin sur le projet politique. Parce que c'est une valeur très moderne, en tous les cas, c'est une valeur d'avenir dans l'économie dans laquelle on est et dans laquelle les gens sont aujourd'hui.
Le concret.
Et que c'est quelque chose d'important. Il y a une forme d'incompréhension aujourd'hui qui s'est manifestée à travers les Gilets jaunes, mais qui continue et qui est là. Donc, donc c'est pour ça que dans les vœux du président de la République, il faut qu'il s'adresse au-delà de l'Élysée.
Il faut qu'il soit chef de l'État.
Fuir ce qu'il tente de fuir, le pouvoir vertical. Et il a du mal.
Moi, je suis très attaché à l'image du chef de l'État, et c'est pour ça que j'étais très opposé au grand débat, avec un S à grand et à débat. Pourquoi ? Parce que le chef de l'État en France, il est là pour avoir une ligne de conduite sur 5 ans ou 7 ans, quand c'était le septennat, je suis attaché au septennat, et c'est au chef de gouvernement que de débattre de la vie politique gouvernementale, c'est-à-dire les retraites, c'est-à-dire la vie des Français au quotidien. Et je trouve dommage qu'on n'ait plus une certaine parole sacrée. Et je veux faire un parallèle avec la dimension anglaise. La reine d'Angleterre, quand elle va faire ses vœux, parce qu'on s'inspire du modèle anglais pour les vœux en France, la reine d'Angleterre, quand elle va faire ses vœux, je pense qu'elle aura un petit mot sur le Brexit, mais qui aura une puissance colossale parce qu'elle a très peu pris la parole tout au long du débat sur le Brexit et elle a laissé le chef de gouvernement continuer à le faire.
Oui, c'est pas comme, pareil. Hein.
C'est comme ça que fonctionne la dimension, la démocratie.
Cette bicéphalie entre le chef de gouvernement et le chef d'État, elle est importante pour pouvoir garantir finalement l'unité de l'État. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui en France. C'est que Emmanuel Macron est trop allé sur le ring. Et quand les Français ont attendu un peu d'unité, peut-être un peu de soulagement, l'acteur du ring ne peut pas être la personne qui rassure.
C'est la reine. C'est la reine d'Angleterre. Donc après, est-ce qu'elle doit justement...
Ses pouvoirs constitutionnels sont plus bas.
Mais, il faut pas
mais c'est ce qui manque peut-être en France.
Et puis en même temps, moi, je suis pas totalement de votre avis parce que la crise des Gilets jaunes a été tellement fondamentale et les effets demeure encore aujourd'hui que, au fond, l'intervention du président de la République était presque justifiée. Et si on en juge d'après ses résultats, elle lui a tout de même permis, multiplié, de sortir du nas dans laquelle il se trouvait. Sinon, je vois mal comment.
Moi, je suis convaincu que si Emmanuel Macron avait, au début de la crise des Gilets jaunes, attendu ne serait-ce que les vœux, en envoyant au front le Premier ministre tout le long de la crise jusqu'au 1er janvier 2019, s'il avait attendu le 1er janvier 2019 pour poser un discours de rassemblement avec quelques belles annonces, c'était terminé.
Je pense qu'il est rentré beaucoup trop tôt
dans le jeu politique.
Alors on aurait rajouté au portrait qu'on fait de lui, mépris et arrogance. Édouard Philippe n'aurait pas eu cette capacité de régler comme il l'a fait. Alors
surtout que les Français ne voulaient s'adresser qu'au
président. À partir du moment où il a pris la parole.
Oui,
Emmanuel Macron a été visé à partir du moment où il a pris la parole, lorsqu'il a fait son intervention dans la verrière de l'Élysée. C'est à partir de là, on a vu arriver ces affiches avec Macron démission. Avant, ça restait beaucoup sur le carburant. Ouais. Moi, j'ai vraiment vu le moment de la verrière.
Mais tout même, les Gilets jaunes, bon, ça a vite tourné.
On revient sur... comme quoi, il y a des sujets qui sont toujours là et latents, hein, puisque visiblement, c'est aussi des choses que l'on entend. Et on voit, par exemple, pour ce que vous disiez tout à l'heure, Maxime, c'est que, par exemple, sur les Champs-Élysées, à l'occasion de ce 31 décembre, il va y avoir des tentatives de manifestation et sur des revendications sociales plus que sociétales aujourd'hui parce que c'est fortement ancré dans une partie des Français.
Mais le paradoxe, et c'est là où il est un président un peu bizarre, Macron. C'est durant le vif des Gilets jaunes de la crise, il était distancié, presque arrogant en disant... Et puis, un ou deux mois plus tard, il a fait des analyses remarquables sur la crise des Gilets jaunes, en étant même plus pessimiste que le commun des citoyens, en disant « ça va durer très longtemps ». C'est étrange de voir un président qui ne veut jamais être prisonnier de ce que le réel lui impose. Et au fond, dès qu'il est sorti du réel, il fait des analyses d'intellectuels très, très remarquables.
Alors, des fois, il a aussi des conseillers, des communicants qui ne sont pas aussi au top.
Des gens très méprisants.
Voilà, donc c'est assez compliqué.
Est-ce qu'il n'a pas un manque, on parlait des municipales aussi, hein, puisqu'on se projette un peu sur 2019, un manque de relais puissant d'informateurs de ce qui se... En tous les cas, de ce qui remonte du terrain.
Les préfets avaient fait de très belles remontées de terrain au début de la crise des Gilets jaunes. Et ils n'ont pas du tout été entendus.
Les préfets sont une chose, les élus en sont une autre.
Oui, mais alors, il y avait énormément de candides parmi les nouveaux élus, parce que les élus LREM avaient été élus sans même savoir qu'ils étaient candidats, pour certains, on ne sait dire. Mais je pense qu'ils sont restés vraiment... ils sont restés vraiment sourds et beaucoup de conseillers déjà prenaient la préfectorale pour quelque chose à supprimer et lorsque les préfets ont fait remonter des informations, on parlait de l'ENA tout à l'heure, ils les ont regardés l'air de dire bon, vous êtes de l'ancien monde, vous ne savez même plus de quoi vous parlez. C'est ça qui s'est passé. Hein.
Donc on revient, la question, demain soir, ça sera un discours important, je fais le tour de chacun, vraiment, ça va marquer le quinquennat d'Emmanuel Macron.
Il ne serait pas convaincable, Christine, que demain soir, ce soit un discours ordinaire et banal.
C'est ça, ouais.
Mais on attend beaucoup de lui, notamment...
Est-ce qu'on n'attend pas trop et du coup on va avoir un degré de déception?
On attend de lui notamment une grande surprise. Qu'est-ce qu'il va trouver pour dénouer la crise? Eh bien,
peut-être
c'est une grande difficulté pour lui. Mais au-delà même de la retraite, quoi. Tout de même, intervenir dans un tel climat, c'est pas évident.
Après, j'espère que ce discours-là, ça sera un discours assez poignant. En fait, il faudra que son discours rentre dans chaque foyer. Pour que ça puisse parler à chacun d'entre nous. Et je suis persuadée qu'il ne fera pas d'annonce, ça c'est certain. Mais pourquoi pas une feuille de route pour 2020, voire 2022 et au-delà.
Oui, il va se projeter forcément sur les prochaines échéances. Et la prochaine, ce sont les municipales au mois de mars prochain. Maxime, est-ce qu'il peut... Est-ce que ça va marquer durablement le quinquennat? Parce que on se souvient de celui de lors de la crise des Gilets jaunes, parce qu'il y avait un moment de tension dans le pays. On se souvient de ses premiers vœux parce que c'était un phénomène nouveau. Mais là, aujourd'hui, est-ce qu'il peut vraiment marquer d'une empreinte particulière ce quinquennat?
Son principal adversaire demain, ce sera lui-même. Et il faudra qu'il fasse preuve de compassion, d'empathie, d'aucune pointe de mépris, aucun terme déplacé. Parce que le principal adversaire de Macron, c'est Macron. Et les Français en veulent principalement un Macron.
Mais Maxime, et c'est
une
tout à fait vrai.
Mmh.
Et il y a quelque chose de pathétique dans sa volonté de montrer qu'il a changé, mais il y a la pesanteur en quelque sorte de sa nature.
Ouais.
Je trouve que c'est pathétique pour lui.
Voilà, Emmanuel Macron, demain soir, est-ce qu'il peut encore apaiser les choses? Eh ben, nos vraies voix, ce soir, ont l'air de répondre toutes pas trop. Donc, à voir, et on sera là à écouter le chef de l'État. On y reviendra aussi demain matin dans le Grand Matin Sud Radio avec Philippe David, ses invités, ses chroniqueurs, pour parler de ce moment politique important, le moment politique français des vœux du président de la République lors du passage à la nouvelle année. Maxime, Sophia, Philippe, merci.
Merci beaucoup.
Demain, ça sera la dernière de l'année, Sophia.
Bravo, à bientôt, Christine.
J'ai été un plaisir. Ouais,
je me suis glissée dans les souliers de Christophe Bordet.
Bravo. Hein. Et ils sont ravissants.
Oui. Ah, non, il ne fait pas la même pointure
les
que
souliers.
Moi.
Il n'y a pas que les souliers.
Je vous embrasse en tous les cas. On se retrouve demain soir pour les vraies voix de Sud Radio dès 17h. Et tout de suite, c'est l'ami Yvan Cuchus que vous allez retrouver pour le Loft Musique, le best-of de cette fin d'année. Très belle soirée à tous et à demain. I go through with cripples and some